Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. C'est dû être quelque chose d'extraordinaire. Quand Adam et Ève, je vais chercher loin, ont exprimé les premiers mots. Les fleurs ont un langage, le parfum, les couleurs. Les animaux ont un langage. Les hommes qui sont capables d'aller dans l'espace n'ont pas encore découvert le secret du langage des animaux. Alors on entend, nous, on perçoit des grognements, des caquettements, des sifflements, des hennissements. Ils doivent se comprendre entre eux. Et l'homme, ce n'est pas seulement un langage, ce sont des paroles. Et qu'est-ce que nous faisons avec les paroles ? Quelle utilité, quelle utilisation donnons-nous aux paroles ? Il semblerait qu'il y ait deux adjectifs qui caractérisent la parole humaine, les bonnes paroles et les mauvaises paroles. Alors, avec tout un champ de possibilités jusqu'aux extrêmes, et on fait passer un langage, on fait passer un message, on fait passer une signification. Et c'est vrai que je pensais, je n'avais pas pensé avant, mais quand, avant la prédication, je me disais, mais ça a dû être quelque chose d'assez étonnant. Quand Adam s'est aperçu qu'il pouvait adresser par la parole un message à Ève. Enfin, faut dire qu'il n'y avait pas grand monde pour écouter, hein. Évidemment. Alors j'aimerais ce matin que nous nous entretenions sur la parole. Il y a la parole de Dieu, et puis il y a la parole des hommes. Nous, en tant que chrétiens, nous nous inspirons de la parole de Dieu pour que nos paroles soient des paroles de bénédiction. Autant que nous sachions le faire, et que nous voulions le faire également. J'aimerais justement que nous ouvrions un texte dans l'Écriture sainte, dans le livre enfin, c'est pas un prophète, il l'est en quelque sorte, mais dans le livre de cet homme d'exception qui s'appelle Néhémie. Néhémie. Et nous allons voir que les mots peuvent être des bénédictions et ils peuvent être aussi des malédictions. Alors, Néhémie, chapitre 6. On va rester d'ailleurs dans le chapitre 6, quoi qu'il en soit, mais on va le prendre à deux endroits différents. Néhémie, c'est un petit livre qui nous parle, eh bien, de la restauration d'Israël. Et voilà, au verset 5 et 9, il est dit ceci. Sanballat m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. C'est une écriture là, mais ça procède aussi d'une parole puisqu'on va la lire. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations que Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance de l'empereur du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble Je fis répondre à Sambala, « Ce que tu dis là n'est pas. » En d'autres termes, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Ça, c'est la première partie dans ce chapitre. Verset 16 maintenant, un peu plus loin. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Et elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés avec lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jonachnan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berechia. Vous oubliez tous ces noms, hein. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Voilà. Quelle histoire. Vous connaissez un peu l'histoire de Néhémie? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage d'exception parmi la cohorte de ces hommes de Dieu dans l'histoire de la Bible. Un homme d'exception qui va avoir aussi une mission exceptionnelle. C'est ça ce qui est intéressant. Et je voudrais replacer cela dans le contexte parce que il y a quand même un distinguo à faire entre les enfants de Dieu, les chrétiens, et puis les gens qui sont autour de nous. On appellera bien finalement des gens de ce monde, tout simplement. Et je pense que nous faisons partie de ceux qui devons aspirer à avoir un état d'esprit, un cœur, une âme qui ressemble à celle de Néhémie. Notre modèle parfait, c'est Jésus, naturellement, mais ces hommes défilent sous nos yeux dans la lecture de la Bible pour nous montrer qu'il y a véritablement des hommes qui sont des hommes d'exception de par l'appel de Dieu. Et nous, c'est ce qui doit nous caractériser. Alors, c'est un homme de foi. On le voit prier plusieurs fois dans ce petit livre qu'on appelle le livre de Néhémie. Un homme qui fait confiance à Dieu. Un homme qui souvent crie vers Dieu, parce que comme nous allons le voir, il a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et pourquoi a-t-il des ennemis? Pourquoi l'Église peut-elle avoir des ennemis? Et bénissons le Seigneur que nous vivons dans une démocratie où nos pères, qui ont connu dans des siècles passés véritablement beaucoup de persécutions, soyons reconnaissants et bénissons le Seigneur pour la paix et la quiétude dans laquelle la liberté de conscience. Enfin, homme de foi et un homme d'une grande intégrité. On le voit se dévoiler à travers la manière dont il va gérer la mission que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, c'est un haut gouverneur auprès de l'empereur dans cet empire. Je me souviens plus trop du nom, mais bon, peu importe, c'était l'empire dominant, comme il y a encore des empires dominants encore aujourd'hui. Et il était auprès de l'empereur. Et nous nous apercevons que Dieu va l'appeler à retourner à Jérusalem pour restaurer cette ville. Restaurer la ville de Jérusalem qui a été détruite par Nebuchadnezzar des années auparavant. Et parce que il veut faire la volonté de Dieu, eh bien, il va être combattu. Il va subir plusieurs attaques, des tentatives d'assassinat pour le faire disparaître. Et comme nous l'avons sous les yeux, nous l'avons souligné, ils pensaient qu'ils allaient m'effrayer pour que l'œuvre s'arrête. Et là, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas forcément simple. Et une des preuves que nous sommes probablement dans le plan de Dieu, parce que nous servons le Seigneur, non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu, c'est que nous allons avoir des tribulations. Nous allons avoir des ennemis, des adversaires qui vont tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour essayer de nous neutraliser. Alors il est injustement combattu parce qu'il veut rendre la ville de Jérusalem, il veut lui rendre, cette ville qui était ruinée, toute sa gloire d'antan. Voilà. Il y aura un homme qui va venir aussi, qui s'appellera Esdras. Et Esdras, lui, va avoir comme mission de reconstruire le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le lieu saint. Lui, eh bien, Néhémie va avoir la mission de refaire toutes les murailles, parce que si le temple est à tous les vents, il va être détruit tout aussitôt. Alors, il y a l'écrin, et puis il y a la perle. La perle, c'est le temple. L'écrin, ce sont les murailles qui sont autour. Donc, chacun va avoir sa place. Même personnage, même type de personnage. Alors, ses adversaires sont nombreux, ils sont redoutables. Et ils vouent à Esdras, particulièrement à Néhémie, une haine sans cause. Ce ne sont pas des Juifs. Alors, vous voulez connaître les noms? Il y a Sambala, il y a Tobija, il y a Gershem, Gasmu. Ça va? Si vous arrive d'avoir une naissance dans votre famille, vous avez le choix des noms, là. Hein? Gasmu, moi, je trouve que c'est magnifique. Bon, ça vous fait sourire, mais bon, à l'époque, ça ne devait pas faire sourire. C'était normal, tout simplement. Donc, voilà un peu la configuration de notre message. Et ce matin, je voudrais souligner une chose. Dans un monde que vous connaissez, que nous partageons, qui nous afflige, qui nous attriste, mais ça ne nous fait pas baisser la tête, parce que nous savons en qui nous croyons, ce sont toutes les rumeurs qui courent de par le monde, relayées par les médias, qu'ils soient le web, que ce soit en effet le téléphone, que ce soit eh bien la télévision, la politique, le social, que ce soit le religieux, que ce soit le médical. Toutes sortes de rumeurs que j'ai appelées des rumeurs assassines. Ça vous arrive d'écouter les nouvelles? Comme les Athéniens, qui ne passaient leur temps qu'à écouter des nouvelles. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans le livre des Actes. Et nous sommes dans une société où nous passons, où les hommes passent leur temps. Ils ne peuvent pas se passer d'avoir véritablement, eh bien, quelqu'un qui parle. Soit dans l'automobile, soit au travail, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la musique ou autre chose. Comme s'il manque dans le cœur de l'homme une dimension. Alors on écoute, on prend des nouvelles, la météo. Vous savez qu'il fait beau aujourd'hui? Ça vous fait sourire, hein? Eh oui. Et on ne vit qu'à ce rythme-là. Et ça a toujours été, les journaux, papier ou autre chose. Eh oui, l'information. Et il y a quelquefois des overdoses, parce que, on le dit, et c'est constaté, on se dit, est-ce bien la vérité? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose? Ceci ou cela? Eh bien, figurez-vous que si nous disons, ben voilà, ce sont nos temps, ils sont modernes, eh bien, figurez-vous que du temps de Néhémie, c'est exactement la même chose. En temps de guerre, la désinformation est une arme extraordinaire de faire croire ce qui est faux, et puis de pouvoir détourner finalement eh bien, les stratégies d'ennemis pour les enfoncer, enfin voilà, toutes sortes de choses. Donc Néhémie, retenez bien, il avait 4 ennemis nommés, hein, les noms que nous avons cités, et pour eux, eh bien, c'était quelque chose d'inconcevable que ce juif venu de Suse, hein, je crois, non, c'était peu importe, enfin je n'arrive pas à retrouver le nom, mais ça n'a pas d'importance. Oui, eh bien, justement, reviennent pour, parce que lui, Néhémie, il était juif, il était dans son pays, hein, ça c'est sûr, que les autres c'était des matinées, hein, c'était des palestiniens, mais samaritains, enfin bon, c'était des races mélangées. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et ça a toujours été la même situation, même en 1947, hein, quand Israël est revenu prendre pied, ben, personne n'en voulait, hein, ça c'est sûr, et les conflits durent encore aujourd'hui. Hein. Mais bon, peu importe, c'est pas l'essentiel. Mais c'est la stratégie. Et je pense que pour nous, ce matin, il est important, dans le combat qui est le nôtre, l'investissement de notre service, ou le ministère que nous remplissons, que nous sachions et que nous ayons du discernement du monde dans lequel nous vivons, qui nous enveloppe, Et puis également, eh bien, ce que nous dit la parole de Dieu, et ce discernement, c'est Dieu qui est capable de nous donner afin de pouvoir échapper à toutes ces choses négatives et de pouvoir continuer envers et contre tout à aller jusqu'au bout de l'œuvre qui nous a été confiée et sans baisser les bras. Alors il y a là, dans ces quelques mots, eh bien, le dévoilement de la stratégie d'attaque, en quelque sorte, les ennemis qui attaquent. Il y a des mots infamants qui sont lancés, aujourd'hui, on est de moins en moins poli. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas devant les grands médias, eh bien, osé écrire ou prononcer des mots qui, quelquefois, peuvent être choquants. On parle de tout. Maintenant, c'est passé dans le langage courant, hein, avec des mots qui sont insultants, avec des mots qui sont humiliants, avec des mots qui sont impurs, on pourrait dire. Et personne n'y voit, enfin, nous, les chrétiens, on y voit quelque chose, mais on se dit, ben maintenant c'est le langage, et puis on va bientôt les verser dans le répertoire du dictionnaire en pensant que c'est un mot qui, ce sont des mots qui sont normaux. Donc, ces mots infamants sont l'arme de prédilection de la rumeur. Oui, de la rumeur. Et vous avez remarqué avec moi, il est dit dans notre texte, je l'ai lu, je le relis, le bruit se répand. Le bruit. Que toi, Néhémie et tes collègues, vous pensez à, penser à la place des autres, ou suspecter, ça s'appelle de la suspicion, que vous pensez à, parce que tu vas, l'affaire n'est pas faite, mais parce que nous pensons que finalement, eh bien là, tu vas, dit-on, tu as même établi, c'est un procès d'intention parce que rien n'est fait, eh bien, le désir de devenir roi de Juda. C'est bien cousu, hein. C'est bien fait, hein. Et le but du mensonge éhonté, normalement, chez les ennemis de Néhémie, devrait produire chez lui la frayeur, lui faire perdre courage et arrêter l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelquefois nous ne nous arrêtons pas trop facilement à ce que nous entendons? Et des choses qui, quelque part, jettent le doute, bousculent nos convictions, notre position, et on se dit, ben, peut-être qu'ils ont raison, mais remarquez, vous savez, la vieille ficelle du Jardin d'Éden, Dieu aurait-il réellement dit? Ça commence là. Vous connaissez l'histoire? Eh oui, Dieu a-t-il réellement dit? Et de nous amener, eh bien là, à tomber dans un piège, à faire le contraire, à désobéir à Dieu, à mettre la main dans quelque chose que nous ne devrions pas mettre la main, mais de pouvoir dire, eh bien non, moi, je reste fermement. C'est pas la peine de faire la guerre aux autres, hein, mais de prendre position en tous les cas. D'ailleurs, on verra Néhémie qui va dire à un moment donné, tu vas, dit-on, devenir le roi, tu m'as même établi des prophètes pour te consacrer religieusement à la royauté, voilà. Néhémie redira à ses adversaires, à ses détracteurs, eh bien, ce n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Et l'homme est inépuisable dans toutes sortes d'inventions mensongères. Quand on voit que des tyrans, des dictateurs, des destructeurs de l'humanité ont séduit des millions et des millions d'hommes, les entraînaient dans le sang, dans le feu, dans la guerre, avec des discours enflammés qui n'étaient que des mensonges, avec une idéologie, qu'elle soit raciste, qu'elle soit d'une manière ou d'une autre, d'orgueil, d'une nation supérieure à toutes les autres, et de voir les gens qui accament, des gens qui vont se plier, des gens qui vont adorer finalement, eh bien, le grand parleur, le grand mensonge, et en faire une idolâtrie. C'est terrible, hein? Vous savez, la vieille ficelle dont je vous parlais tout à l'heure, elle marche encore aujourd'hui, hein? C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, la toxicité des faux bruits. Je parle de quelque chose d'actualité, hein? Je ne veux pas juger, mais je constate. Et de susciter dans notre pensée, en tant que chrétien, au regard de ce que nous dit la parole de Dieu, qu'il faut faire attention. Le grand mensonge. Jésus le dira d'ailleurs de sa propre bouche. Dans Jean chapitre 8, verset 44, quand il dira « Votre père c'est le diable, il est le meurtrier et le menteur depuis le commencement parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. » Que Dieu nous donne par son esprit, qui est l'esprit de la vérité, d'avoir des assises, d'être scellé et d'être bien droit dans, non pas notre vérité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit évangélique ou des choses comme ça, mais qu'elle soit véritablement la vérité de la parole de Dieu, sans tomber dans le légalisme. Je le signale, parce qu'avec le légalisme, on peut faire encore plus de mal que le reste. Ça, c'est une contre-arme dont le diable se sert pour essayer de... Non, dans l'amour. C'est Jean qui écrira dans son épître, je crois que c'est à Gaius, il dira « Gaius, que j'aime dans la vérité. » Il y a une nuance, que j'aime dans la vérité. Et nous devons apprendre à nous aimer dans la vérité, selon la vérité du Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous. La toxicité des faux bruits, et qui tue, parce que non seulement ils tuent le corps, mais ils peuvent tuer l'âme. Et il peut y avoir des frères, des sœurs qui sont morts, parce qu'ils ont été tués, quelque part au niveau de leur âme, leur foi a sombré, parce que quelque part, eh bien, on leur a dit des choses qu'ils n'auraient jamais dû entendre, et qui plus est, étaient fausses. Alors, dans l'énumération, dans la panoplie des propos fallacieux, il y a, rappelons-le, les critiques. Il y a des hommes et des femmes qui ont un malin plaisir à critiquer tout. Il y a, je voudrais le dire, une critique négative et une critique positive. Et celle-là ne fera pas de mal, parce qu'elle est remplie de l'amour dans la démarche. Il y a également les murmures. Ah, vous vous souvenez comment ça se passait dans l'Ancien Testament quand les Hébreux étaient dans le désert? Le mot murmure revient à chaque chapitre. Ils murmurèrent. Ils n'avaient pas là d'eau. Ils n'avaient pas de viande. Ils n'avaient pas ceci. Ils n'avaient pas cela. Pfiou. Pauvre Moïse. Pauvre Moïse. Les gens murmurent. Dans le monde, les gens murmurent. Il semblerait que personne ne soit content. Les préjugés. Ah ben les préjugés. Il semble que le bruit court, que tu vas devenir, que tu veux vouloir être le roi. Les préjugés. Eh oui, faisons attention aux préjugés, parce que c'est jugé avant, préjugé. Jésus nous dit, jugez selon la vérité, tout simplement, et elle ne se discute pas. Renseignez-vous, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Eh bien, faut avoir le courage quelquefois, lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a une contestation, lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a quelque chose qui peut... Eh bien, vous avez entendu d'un côté quelqu'un qui vous a dit ceci, eh bien, il faut aller voir l'autre côté dont on vous a parlé, et de dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Et vous vous ferez une idée, et ça vous évitera de pécher. Et pas vous laisser entraîner dans toutes sortes de choses, de partisans, des choses partisanes, pardon, et de vous laisser embarquer dans toutes sortes d'aventures, où vous allez être complice à un moment donné. Je suis pas trop dur. Autrement, je reviens pas vous voir avant 2021. Alain a dit. Ah, vous savez ce qu'il a dit. Bon. Il y a les idées préconçues, ce sont les préjugés. Ah, je pense qu'on va, en parler tout à l'heure. Il y a les hostilités, parce que là, ces gens, Tobija, Sambala et puis tout le reste, ils avaient des idées préconçues. Ils devinaient, ils pensaient deviner que finalement les intentions de Néhémie s'y reconstruisaient la muraille, c'était pour qu'à un moment donné, ils soient tranquilles et qu'ils soient le roi de tous. Voilà, idées préconçues. Les allégations spécieuses. Vous savez ce que veut dire l'adjectif spécieux? Qui a l'apparence de la vérité, mais c'est du pseudo. C'est faux. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Les potins. Ah, les petits potins. Oui. Vous avez entendu ça? Les potins, ça se, on le dit plus, hein, tellement, hein. Enfin, dans les villages, dans le temps, ça courait un petit peu, hein, ça faisait partie du journal, de toute façon. Et les insinuations, c'est ça, hein. Et quelquefois, nous utilisons des mots, nous, faut faire attention aussi. On raconte que, les gens disent que, j'ai entendu dire que, est-il vrai que, le bruit se répand que, ça, c'est l'univers du grand flou, le mystère bourré de sous-entendus accusatoires, ce sont des bavardages. Eh oui, je bavarde pour passer le temps. Je parle de quoi? Des recettes de cuisine? C'est pas mon style. Je bavarde parce que bon, voilà, on aime bien quelquefois, même dans nos communautés, hein, y a des bonnes choses qui se passent, merci Seigneur et heureusement. Mais quelquefois, il y a des églises qui sont en crise, qui sont malades, et les bavardages vont beau train, bon train. On dit ceci, on dit cela. J'ai entendu dire, on dit que, est-ce que c'est vrai, et ceci et cela. Et bavardage du genre, ah, mais s'il lui est arrivé ça, je le savais bien. Je le savais bien. Je vous l'avais bien dit. Donc c'est moi qui ai raison, hein. C'est bien ce que je pensais. Il s'est pris un mur, mais il avait pourvu qu'il y avait un mur devant lui, et puis, ah voilà, et puis etc., etc. Il y a un proverbe populaire, vous savez que j'aime beaucoup les proverbes. Hein. Vous en avez entendu quelques-uns avec moi. Hein. Proverbe de la Bible, et puis proverbe populaire, voilà. Il y a un proverbe qui dit ceci, « La parole du calomniateur, ça va loin, hein, naturellement, hein, est comme le charbon. » Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. « Quand c'est cette parole du calomniateur ne brûle pas, elle noircit. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont sortis tout noirs. Eh oui, tout noir. Il y a un compositeur, un chanteur, qui a écrit ceci. Alors vous la connaissez, hein, ça remonte à une trentaine d'années. C'est sur la rumeur. La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse, entre confesses et conflits. La rumeur, ça occupe et ça converse. Ça nourrit la controverse, ça pigmente les passions, le sel de nos conversations. Elle se nourrit de cancan. Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines, à la sève de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. La rumeur est un miroir, et la rumeur qui s'est tue ne reviendra plus. Alors, dans le cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. Vous avez deviné peut-être l'auteur de ce bon poème, je l'ai toujours gardé, parce que j'ai trouvé qu'il était quand même formidable. Ouais, ouais, la rumeur, eh bien, c'est vrai que ça ne brûle peut-être pas toujours, mais en tous les cas, ça noircit. Et quand quelque chose noircit, c'est qu'il y a une consommation. Et ça laisse des traces. Les rumeurs qui ont couru dans l'histoire du monde, elles sont encore présentes aujourd'hui. On dit que ceci, cela, etc. Nous allons prendre une autre illustration, toujours dans le même livre, et au chapitre 4, et je vais lire le passage, c'est des passages courts. Alors, Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 3. Nous retrouvons un petit peu, là, ce contexte, un petit peu avant ce que nous avons lu tout à l'heure. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit « S'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Alors là, nous avons de quoi alimenter notre histoire. On y trouve la jalousie d'abord. Oui, c'est ce que nous avons vu. Parce qu'il était en colère et très irrité, mais ce qu'il va dire, c'est le produit non seulement de la haine, mais de la jalousie. Attention lorsque nous sommes jaloux. Lorsque notre cœur, tombe dans le piège de la jalousie, nous ouvrons déjà une porte ou une fenêtre ou une trappe, à toutes sortes de paroles qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Faisons attention à cela. On y trouve la colère. La colère, c'est la vengeance. Néhémie, il nous dérange. Nous sommes bien dans le pays de Samarie, dans le pays d'Israël. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Pourtant, ils étaient chez eux, c'était des Juifs. Néhémie, ils revenaient. Et la colère, quelquefois, ça nous donne de dire des choses au-delà de ce que nous pensons. Mais là, c'était bien savamment préparé, il avait bien compris ce qu'il fallait dire. La moquerie. Et vous savez que la moquerie, c'est pas des coups de poing dans la figure. C'est pas être molesté quelqu'un violemment, physiquement. Mais la moquerie, c'est encore pire. C'est encore plus sordide, nous pourrions dire. Parce que la moquerie, c'est une forme de violence qui atteint la personne, qui touche à sa réputation, à sa personnalité et le mépris. Et c'est fait en public. Il nous est dit que Sambala, a dit devant tous les Juifs et devant les soldats, devant ses frères, ce qu'il en est, ce que nous avons lu un petit peu plus loin. Donc, c'est une humiliation. C'est rendre Néhémie et les Juifs impuissants à cause de la perfidie du doute. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce tas de pierres? Parce que vous savez que Nebuchadnezzar avait rasé tout, le temple, la muraille, tout, il ne restait plus rien du tout. Ce n'était, quand on lit le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie, ce n'était qu'un tas de pierres. Tout avait été brûlé, qu'est-ce que l'on peut faire? Vous savez, Dieu a demandé à Néhémie qu'avec un tas de pierres, dont les hommes sont en train de critiquer en disant qu'ils ne feront rien parce que finalement il n'y a rien à faire, Dieu est capable de faire revivre les pierres. Ouais. C'est Jésus qui dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Oui. Donc, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble de choses, et puis ils iront pousser, la moquerie jusqu'à dire, si un renard passe par là, avec sa queue, il va tout balancer, et puis il restera rien. C'était une cruelle humiliation. Mais faisons attention aux œuvres de démolition. Parce que, si l'on est artisan de démolition, et c'est Paul qui nous en parle, nous serons démolis nous-mêmes. À un moment ou un autre, et là c'est la justice. Et là c'est quelque chose. D'ailleurs, tous les grands conquérants qui ont fait couler le sang et qui ont rempli la terre, finalement, de champs de bataille, etc., ils sont tous passés aussi. Ils sont passés, ça c'est sûr. Mais dans quelles conditions, Et là, faut faire attention parce que celui qui amène la division, il sera divisé lui-même et il aura ce qu'il a fait. Celui qui somme, moissonnera la tempête. Il faut faire attention, il ne faut pas l'oublier dans le peuple de Dieu, ça. Il y a eu des choses très tristes dans nos églises quelquefois. Dans les églises historiques, mais dans les églises aussi de notre temps. Faire attention. Ouais. Œuvre de démolition, on peut aussi, nous-mêmes, avoir le sort qu'on a fait passer aux autres. Et puis le côté terrible, si je peux m'exprimer ainsi, de la rumeur, c'est sa ténacité. Elle ne lâche pas. C'est comme un pitbull quand il vous a happé, il va pas vous lâcher. Donc c'est sa ténacité dans la durée. On se dit, mais quand est-ce que ça va finir? On entend ce bruit, il y a ceci, il y a cela, mais quelquefois, des mois, des années après, on entend toujours la même chose, et même s'il y a eu un jugement qui a été rendu juste, les gens resteront, parce que ils ont été noircis. Alors on dira, oui, mais c'est monsieur un tel, c'est ceci et cela. Vous savez, il y a quelque chose qui véritablement est plus grand que tout ça, c'est le pardon de Dieu. Quand les gens se repentent, même les gens du monde, lorsqu'ils se repentent et qu'ils disent, moi maintenant je regrette ce que j'ai fait, il a droit au pardon. Et nous devons pardonner aussi, peut-être dans les petits problèmes, petits problèmes que nous pouvons avoir les uns avec les autres, et ne pas rester sur des préjugés en disant, et lui faire une veste, ou lui donner un nom en disant, mais c'est celui qui? Parce que si vous le faites, il y aura toujours un moment ou un autre pour vous, où on le dira de vous-même. C'est comme ça. Ouais. Il se maintient dans la durée, et il peut y avoir une éponge qui a essuyé l'ardoise, et ben non, ça reste. Tout simplement. Bavardage et dénigrement, ou la toxicité de la langue. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Il s'appelle Jacques. C'est pas d'aujourd'hui. Dans son épître, il nous parle finalement d'une étincelle. La langue est une étincelle. La langue est un feu. Et à une étincelle, on peut embraser une grande forêt. Les Australiens l'ont appris à leurs dépens, hein. Ça part avec rien. Et puis voilà que tout un continent va disparaître. Une maison va brûler. Et ça part avec rien. Et je pense que quand Jacques emploie cette image de l'étincelle, il veut dire que la langue, je l'ai dit en avant-propos, la langue peut être vecteur de bénédiction, mais également de malédiction. Et si vous remarquez la décomposition du nom bénédiction, béné, bien, dire le bien, malédiction, mal, édiction, c'est dire le mal. Je trouve que c'est extraordinaire le vocabulaire. Et soyons vigilants devant ces choses. Allez, je résiste pas à vous donner un autre proverbe. Un autre proverbe révélateur. Est-ce que vous avez des poules chez vous? Quelle histoire! Moi, dans ma ferme de plusieurs hectares, j'ai toutes sortes d'animaux. Vous êtes déjà venu chez moi? Bah ouais, c'est immense, je suis obligé de prendre mon cheval pour aller d'un bout à l'autre. Hein. Alors, la poule! Écoutez bien. C'est par son caquetage que la poule fait découvrir son œuf caché. Je ne vous demanderai pas de faire avec moi. On risque d'avoir des douzaines d'œufs. Eh oui, je cherche ma poule parce que j'ai envie de manger un œuf. Alors je cherche, elle ne dit rien parce qu'elle est en train de pondre, elle fait des efforts. Mais au bout d'un certain temps, elle est contente, la poule, parce qu'elle a pondu son œuf. Et là, vous l'entendez, quac, 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 quac. Ne me faites pas une réputation avec ce que vous venez d'entendre. Pour dire que tous les bavardages, c'est un bavardage, finalement, eh bien, de la poule, tous les bavardages oisifs et tapageurs des hommes trahissent la folie de leur cœur. Eh oui, il y en a qui parlent beaucoup, qui parlent à n'importe quel propos, qui parlent pour dire n'importe quoi, n'importe comment, pourvu qu'ils parlent, et pourvu qu'on les écoute. Ou alors ils s'écoutent eux-mêmes. Ça peut arriver. Et pourtant Jésus nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh oui. Et c'est vrai que quelquefois, si on a un peu de discernement, on voit des gens qui parlent, mais on a du mal à croire, hein. Parce que l'œuf qu'ils sont en train d'enfanter, ça peut être un œuf de vipère. Hein. Eh oui. Et il y a là, dans notre texte, toute une stratégie de minage, où les choses sont minées. Et dans le chapitre 6, et j'y reviens, au verset 17, il est dit ceci, que je retrouve. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Judas, par-delà les trois individus là, malfaisants et maldisants dont on a parlé, qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs étaient liés avec, voilà, hein, avec des païens, enfin toutes sortes de choses, et puis ça allait bon train. Donc c'est une stratégie de minage, ils recevaient des lettres. On évitait peut-être d'en dire de trop, mais au moins on l'écrivait. Et vous savez, quand vous écrivez quelque chose qui n'est pas bien, ça, la lettre, la parole, elle disparaît, mais l'écriture, elle reste. Et ça peut être servi des années après. Et là, vous ne pourrez pas contester si c'est vous qui l'avez écrit, que vous avez écrit des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Hein. C'est dans le dos. Ça se faisait dans le dos de Néhémie, tout ça. Dans le dos, devant les autorités de Juda, qui étaient corrompues parce qu'il y avait des alliances, de mariages, on l'a lu. Hein. Et quelquefois, vous savez, ça peut se faire entre nous, entre frères, c'est pas bien. C'est pas bien. La vérité, savoir la vérité, entendre l'un, doit nous obliger moralement, intellectuellement à écouter l'autre. Et puis après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais au moins, vous pourrez dire, ah non, je n'ai entendu que ça. C'est pas tout à fait ce que... J'ai découvert la signification du mot mouchard. Vous savez que depuis que je suis en retraite, je passe mon temps dans les livres. Oui, dans le livre, mais je cherche dans d'autres livres. Mouchard. Devinez un peu. Ça vient du mot mouche. Eh oui. Et vous savez ce qu'elles font les mouches? Elles colportent. Elles essaiment. Elles expionnent et elles infectent. Oui. Eh bien, c'est ça. Un mouchard, c'est quelqu'un qui va écouter, qui va dire, et puis après, il le tournera à sa manière. Hein. Ça sera selon sa fantaisie. Et selon aussi ses, peut-être, préventions par rapport à d'autres personnes. Allons encore un peu plus loin. Verset 19. Il disait même, les ennemis, il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. T'oblige à envoyer des lettres pour m'effrayer. Eh oui. Il y avait des traquenards qui se faisaient dans le dos de Néhémie, mais là, ça se fait finalement, et bien là, en public, tout simplement, pour donner encore plus de force, une conspiration ouverte devant moi en ma présence. Vous savez, oser soutenir et défendre ce qui est condamnable, c'est grave. Quand on sait pertinemment que c'est faux, que c'est un mensonge, que c'est pour nuire, que c'est pour discréditer, c'est pour calomnier, c'est infamant, le savoir, nous en tant que chrétiens, le savoir, en être convaincu et le soutenir, c'est pas possible. Ça relève, finalement, eh bien, des tribunaux humains, hein, quand ça arrive. Et quelquefois, nous, on a un tribunal ecclésiastique. C'est pas la peine, hein. C'est le Seigneur qui va juger. Parce que lui, il est juste. Il est juste. Parfaitement juste. Dire du bien quand c'est mal. Et dire du mal quand c'est bien, il y a quand même, on est dans le monde à l'envers. Hein. Et c'est peut-être le monde dans lequel on est aujourd'hui. Hein, pour influencer les gens. La conclusion. Ça va? Oui. Vous me le dites, hein? Il y a trois choses évidentes pour nous. Ce mot, sagesse. Sagesse. Ça revient très souvent. Il nous est dit, à Dieu, seul sage. Nous ne sommes pas sages. Même si nous imaginons que nous sommes sages, nous ne sommes pas sages. Il y a les sages et les fous. Avec votre respect, moi, je parle pour moi, je suis plus fou que sage. C'est vrai? Et quand, dans la Bible, il nous est parlé de la sagesse, c'est pas la sagesse selon les critères humains, c'est la sagesse qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse. C'est vrai? 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Vous voyez que je travaille, hein? Si quelqu'un manque de sagesse, après avoir batifolé dans toutes sortes de sentiers et puis de dire « Ah oui, mais je me suis trompé », eh bien, pourquoi? Il nous est dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée. Non, sans reproche. D'accord? Vous retenez le mot sagesse? On le retient. Je vous ferai faire une interrogation écrite d'ici quelque temps. Ça, la sagesse, c'est une chose. Ne jugez de rien avant le temps, nous dit Paul. Connaissez le texte. Ne jugez de rien avant le temps. Et puis il y a une troisième chose, c'est le souci de vérité. Est-ce que c'est vrai? J'ai besoin de faire des recherches. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir qui dit vrai. Et non pas des « on dit que », hein, du « quand dira-t-on », « les gens disent que ceci et cela ». Nous, on avait un frère dans l'église précédente où j'étais, quand il entendait les chrétiens dire « on », il disait « mais qui est on ?»« Qui est on ?»« On », ça fait l'âne, hein. Retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal, examinez toutes choses. Mais on a le temps de le faire, ça. Quelquefois, il y a des choses dans lesquelles on est vraiment perplexe. Les chrétiens sont perplexes. Un pasteur, c'est son travail, ça. Hein, savoir où il met les pieds et savoir ce qu'il entend. Et comment va-t-il résoudre le problème? Et de ne pas dire « je sais résoudre le problème ». Parce que vous savez, à toutes les situations, il y a toujours quelque chose. C'est jamais pareil avec le Seigneur. Hein. Alors soyons prudents de tout cela, hein, naturellement. Et puis, une observation qui va clore notre message. Le monde dans lequel nous vivons, et pourtant Jésus nous a prévenu, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. D'accord? C'est Jésus qui l'a dit. Et nous, nous sommes précisément dans ce monde. Seigneur, je voudrais tellement me renfermer dans un lieu où je ne vois plus personne. J'emmène même pas ma femme pour être tranquille. Non, mais elle sait que c'était une histoire que je suis en train de raconter. Oui. C'est pas de se mettre entre quatre murs, hein, et puis de se renfermer dans un mysticisme ou dans, je ne sais pas moi, quel ascétisme. Non, pas du tout. C'est de vivre dans le monde, mais d'être finalement des Néhémies dans ce monde. Ouais, c'est ça. Et le Seigneur nous dit, ben, vous allez être la lumière du monde et vous allez être le sel de la terre. Parce que vous n'êtes pas de la même, la nouvelle naissance vous a donné d'être de nouvelles créatures. Alors, dans un monde qui est gangréné par, tout le monde parle anglais, des fake news. Ah oui, ça vous rappelle des bons souvenirs. Hein? Aujourd'hui, il y a des émissions entières à la télévision qui sont dédiées à désintoxiquer les gens. L'intox, désintox. Voilà. L'autre jour, je voyais une publicité pour désintoxication du corps, vous savez, le foie, etc., etc., hein, détox. Ils s'appellent tous détox. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est du poison. Et les gens le prennent pour se désintoxiquer. J'espère que je vexe personne, mais... Parce que sur une étiquette, avec la publicité, quand il s'agit de l'argent, on est prêt à faire et de dire n'importe quoi. Je ne sais pas si je vais survivre. Le monde est plein de fake news. C'est le pourrissement de la société sur le terreau de la fausseté et du mensonge. Eh oui. Alors nous, il faut vivre dans ce monde. C'est pas de dire je me mets de côté, je fuis, etc. Non, c'est d'être là et d'être les tenants de la vérité qui sont en Jésus-Christ et de la parole de Dieu qui est la vérité. Ça peut nous coûter cher, hein. Parce que pour avoir dit la vérité, quelquefois, on s'est fait débarbouiller. Et je sais de quoi je parle. Mais c'est pas de dire « je te dis les quatre vérités », c'est pas ça, ça c'est pas bien. Mais de vouloir finalement rétablir l'équilibre et de ramener ce qui est juste, tout simplement. Prenons garde, mes frères et sœurs, en conclusion, de ne pas nous laisser impressionner ou nous laisser décourager par tout ce que nous entendons, car Dieu est capable de recycler. Il est capable de recycler ce qui était rejeté par les hommes, je l'ai dit tout à l'heure, et de transformer nos défaites humiliantes, qui étaient en apparence celles de Néhémie, en victoire, malgré les adversités de la mauvaise langue, ou tout simplement malgré les adversités de la langue qui parle à tort et à travers, et qui est là pour détruire, du genre de Néhémie, chapitre 4, « Que feront ces misérables juifs avec ces pierres brûlées, ces pierres ensevelies sous la poussière, qui ont été consumées par le feu ?» Eh bien, dans ces pierres, eh bien, Dieu est capable de changer les choses. Parce qu'il y a, et nous vivons dans un monde qui construit avec toutes sortes de pierres, ouais, et il y a parmi ces pierres, quelquefois, des choses qui sont profondément toxiques. C'est ce que j'ai appelé les rumeurs assassines. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Et puis, que le Seigneur nous donne d'aimer la vérité. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta parole, parce que je souhaite, Seigneur, je te le demande, que la parole de Dieu soit cette pertinence qui vient du ciel et nous convaincre qu'en effet, l'homme reste l'homme et jusqu'au bout, il restera l'homme faillible. Mais Seigneur, si nous nous mettons devant toi et que nous te demandons, Seigneur, crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé, eh bien tu le feras, puisque c'est notre appel, c'est notre destinée, Seigneur, que les enfants de Dieu, que l'Église de Jésus-Christ, véritablement, soit composée d'hommes et de femmes qui avant tout, Seigneur, ont un cœur pur, un esprit bien disposé, même si quelquefois les choses sont difficiles, et que tu nous donnes, Père éternel, de vivre avec cette raison royale, cette raison éternelle, qui est l'amour. Parce que l'amour ne fait pas de mal. L'amour parle bien. L'amour ne trahit pas. L'amour est capable de tout croire. Oui, de tout ce qui est vérité. Alors merci, tu bénis mes frères et sœurs. Tu nous donnes ton secours et ton aide. Nous avons besoin de toi. Devant ce message, eh bien, nous nous sentons petits. Et c'est bien que nous nous sentions petits. Nous nous sentions faillibles. Nous nous sentions incapables. Parce que toute capacité de vérité est dans la personne de Jésus-Christ. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.